Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
On est là avec Daniel Agneau, avec Ludovic Obraniak, avec Yvan Lemay, agent bien connu sur la place, comme on dit. D'habitude, on a Bruno Satin qui vient souvent, qu'on avait baptisé l'agent de tous les agents. C'est un peu ça, hein, c'est un peu... Non, c'est un peu le phare, le guide de tout le monde.
C'est plus vieux.
C'est pour ça. J'attendais que tu réagisses. En tout cas, je voulais faire un point sur les matchs du soir, parce qu'il y avait aussi des matchs amicaux qui n'étaient pas tout à fait finis tout à l'heure, donc je vous donne les résultats. L'Angleterre a finalement battu les États-Unis 3-0 en match amical ce soir. Pas de but de Wayne Rooney. L'Allemagne a battu la Russie 3-0. Et puis il y avait un match Irlande-Irlande du Nord un peu spécial ce soir, puisque c'est les 20 ans des accords de Belfast. 0-0. Voilà, c'était le score un peu idéal hein, dans ce match. Ou peut-être oui, un partout ou deux.
Personne.
Voilà, exactement. Match amical ce soir. Voilà, vous êtes, on est au complet. Puis la Grèce de Mitroglou a finalement gagné 1-0 hein, face à la Finlande, mais ils vont pas monter dans la Ligue B de la Ligue des Nations. Pour conclure sur les ces clauses folles là. J'ai Karen qui nous rappelle une des clauses, c'est vrai que les plus dingues récemment, c'est la fameuse clause de Balotelli qui à Liverpool avait une clause à gagner, 500 000 livres à gagner s'il évitait les embrouilles sur et en dehors du terrain. Vous vous en souvenez de cette histoire?
Ah oui.
C'est la carotte, genre si tu te tiens à carreau, t'auras 500 000 livres.
Bah, j'imagine que le PSG pourrait mettre la même clause, je sais pas, dans le contrat de Verratti, combien de fois par semaine
et
tu vas picoler,
pas,
quoi.
Si tu fais ça, on te retire.
Ben c'est ça, c'est le truc qui est inversé justement.
Ben, ça serait plus logique.
Parce que ça part du principe que toi tu demandes par exemple 10 millions à l'année pour le joueur, ils vont te dire ok on t'en donne 9 et on va rajouter 1 million s'il fait pas le con, s'il écrase personne, s'il tue personne. Si, voilà.
mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens aussi par rapport au fisc, etc.
Non, tu vois, c'est la même fiscalité dessus.
C'est juste qu'ils veulent baisser un petit peu la partie fixe, bon, ce qui n'est pas anormal quand on arrive sur des émoluments comme ça. Et ils essayent un peu de challenger le sportif sur son travers. Lui, en l'occurrence,
ça permet de diluer aussi, diluer sur la durée.
Il peut y avoir des clauses relatives à la vie privée, aux mœurs, si le gars divorce, si le gars divorce pas, si...
Divorce énorme, mais pour ceux qui sont dits fêtards, c'est des clauses de ouais. Si on te chope le soir ou la nuit deux fois dans le mois et que tu fais le con, tu auras pas cette prime là ou on va te sucrer ça. Ou...
Mais moi, bon, j'aurais jamais signé un contrat comme ça.
Pour un club, pour un club, aller chercher ça, c'est pas très intelligent, c'est pas très malin non plus. Moi, j'avais un joueur qui voulait une semaine par an avoir un peu sa liberté. Alors, on pouvait pas le dire au club. En fait, il consultait un marabout. Et même moi ça me surprenait aussi
pour empêcher.
Il avait besoin de sa semaine
mais
dans l'année,
ça, une semaine dans l'année, mais ici
une semaine dans l'année partait voir son marabout
pendant les vacances
pendant l'année sportive. Il faisait ça pendant l'année sportive.
Ah, pendant l'année sportive il voulait une semaine.
Il avait un mois dans l'année sportive octobre novembre où il était pas bien chaque année.
Donc on disait à ce moment-là qu'il avait des douleurs au dos et puis
va expliquer ça quoi, va expliquer ça à un club que chaque année.
C'est comme Neymar.
Il avait besoin d'une semaine, c'est vrai qu'il allait voir le marabout.
Et à chaque fois quand il revenait,
et c'est passé ou pas?
Et quand il revenait, il était au taquet. Et donc la première année, le club te dit mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la grand-mère qui est malade. Ouais, c'est ça, la grand-mère elle est malade. Et puis la deuxième année, tu dis que c'est le tonton. Et puis la troisième année, on te dit bon, c'est bon, arrête quoi. Et il est où le truc? J'ai dit, ok, quand il revient, il est bien ou pas? Oui, bon, ça va.
Ludo,
t'embauchais Giroud pour que les mecs qui sortent pas, t'étais tranquille, ça te coûtait pas rond.
Bon, cela dit, il y a certains clubs où c'est les présidents qui faisaient venir les marabouts, hein, donc tout est possible.
Hein. Si
Deniso, il a fait ça, rappelle-toi.
Ah oui.
Bah oui, il le raconte tout à fait tranquillement en plus.
C'est vrai.
Bon, voilà.
Alors, t'as des joueurs aussi. Alors, c'est vrai que ces clauses, elles paraissent, ça paraît aberrant, mais t'as des joueurs aussi qui, je me rappelle d'André à Bordeaux. Qui s'est déclaré blessé pendant 3 jours
mm-hmm.
pour aller au carnaval de Rio et faire l'aller-retour en 3 jours. t'as des mecs qui font aussi des trucs. Donc
ça c'est une clause à la Fred Hermel. Ouais,
ça c'est la clause dite Ronaldinho.
Ouais.
Voilà.
Ou Mario,
il est Neymar à l'anniversaire de sa sœur tous les ans.
Ah ben, quand même, au Barça, tous les ans, il est anniversaire. Il arrivait toujours à prendre un carton, avoir une petite blessure, à être suspendu au moment de l'anniversaire de sa sœur au mois de mars.
Il l'a fait avec Paris, il y était l'année dernière à l'anniversaire de sa sœur. Bien joué.
Tu sais, le sien d'anniversaire, là, l'année dernière, c'était en grande pompe, machin, on l'a pas entendu parler cette année, il tombe quand l'anniversaire de Neymar?
Ah, là, je sais pas, là, je t'avoue que...
Il avait fait une grosse opération.
Je sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Patrick Boma. Je sais pas s'il avait des clauses carnaval de Rio.
Alors Patrick, je te souhaite un très bon anniversaire.
Je pense pas.
Et je vais immédiatement vérifier quand est l'anniversaire de Neymar. Parce que...
Allez, on enchaîne 23h07, messieurs. On s'arrête là sur les clauses. On enchaîne avec l'avis de Daniel. Fredo, merci en tout cas.
Adios, Chicos. Et Yvan, j'ai raison, tu sais.
Allez. Salut Fredo.
Viens dans les bureaux. Ciao, ciao.
Jingle, Riolo, c'est parti.
Je milite demain, tu me demandes de, on signe un papier pour légaliser le dopage, mais qu'ils prennent tous des picots dans le cul, si c'est pour les faire courir. Hein.
Daniel, tu veux parler?
Ça c'était après le jeudi noir des résultats des.
Ah, ouais.
C'est le 5 février, dis donc, j'avais l'impression que c'était il y a plus longtemps que ça.
L'anniversaire
de Neymar où tout le monde est venu, là où c'était la fête.
Ah, au Bercy, j'étais bourré là.
Exactement.
Ah, c'est ça.
Exactement.
Didier Quillo est venu tout à l'heure dans Team Duga.
Ouais.
Et tout ça t'a inspiré un avis, on va dire, global sur la situation actuelle du foot français.
Eh ben pas exactement comme ça, dans cet ordre-là, Gilbert. Non, je vais t'expliquer. Quand on a échangé cet après-midi, je t'ai dit que je voulais parler de ça, je ne savais pas que Didier Quillo allait venir dans Team Duga. Je savais que j'allais le croiser dans Breaking Foot avec Momo. Et donc, je me suis dit, je vais aller lui poser la question sur l'état de notre foot, mais pas sur les résultats de la Coupe d'Europe de jeudi dernier, parce que lui, qu'est-ce que tu veux qu'il y fasse? C'est pas lui qui joue, c'est pas lui qui fait les équipes, c'est pas. Mais plus sur l'ambiance générale autour du foot français et tous les dossiers qui sont sur le devant de l'actualité ces derniers temps. Et j'avais envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fous? Vous dormez à la Ligue ou pas? Vous êtes attaqué de toutes parts, l'image est massacrée de tous les côtés et il y a personne qui réagit. Et quelle n'a pas été ma surprise d'arriver au moment de Team Duga et de voir qu'il passait ici avant d'aller là-bas. Et je l'ai entendu. Et ça m'a fait vraiment plaisir.
Ouais, mais il n'y a pas 4 points. Il y a 11 points. Donc là, on se défend quand même. On est.
Voilà.
Ça rétablit quand même.
Donc,
le
ça m'a fait plaisir parce que j'ai noté que la phase de contre-attaque était arrivée. Et qu'en tout cas, c'était la démarche de sa communication. Parce qu'aujourd'hui, quand même.
Oui, il a notamment dit, vas-y.
D'abord, sur cette prime d'éthique, ouais. De dire clairement que la façon dont certains médias l'ont présenté, c'était absolument malhonnête intellectuellement. Que lui, son rôle, tant que le PSG n'est pas sanctionné, s'il doit l'être dans les différents dossiers, c'est de rappeler, et il l'a fait dans Breaking Foot, et je suis content qu'il l'ait fait, de rappeler Javier Tebas à ses obligations premières, à savoir s'occuper de la Liga et ne pas se mêler du football français. Je disais, j'ai envie de voir un article dans Marca ou dans As, avec en une, Didier Quillo renvoie à ses premières préoccupations, Tebas. Qu'il aille le faire chier comme lui, il nous fait chier. Qu'il renvoie aux Lyonnais, à la Bundesliga et au Bayern. Qu'il défende les intérêts du football français. Que le PSG ait fait ci ou ça avec le fair play financier. Qu'il fasse quelque chose qu'il a également fait tout à l'heure. Et c'est pour ça que je répète et que finalement, encore une fois, j'ai dit à quel point je suis content. Il a dit, mais il a rappelé de quels avantages avait pu jouir le Real et le Barça à une autre époque dans le football. Il est pas en train de dire, parce qu'il y a des règlements qui doivent être respectés, le PSG, l'UEFA doit pas sanctionner le PSG, mais laissez les enquêtes se faire, laissez le temps. Il est venu, j'espère que c'est le temps de la contre-attaque. La deuxième couche à tout ça, ce que j'attends, c'est maintenant qu'à un moment quand même, les dirigeants du foot français, derrière Didier Quillo, se serre un petit peu les coudes parce que la situation de notre foot, elle est quand même pas bonne du tout. Au-delà des résultats sportifs, la situation globale, je répète, toutes ces affaires-là. Moi, ce que je vois, c'est plutôt chacun dans son coin, chacun ses petits intérêts. C'est un Jean-Michel Aulas qui a l'air tout content quand les autres clubs sont dans la merde. S'il peut foutre un coup de talon à l'OM, il met un coup de talon à l'OM. Et s'il peut espérer que le PSG dégringole, il sera content si ça dégringole. Après, je lui dis, ah, mais si le PSG dégringole, si l'OM, qui t'essaye de mettre des coups de talon sans arrêt, qu'est-ce que tu fais, toi, dans une Ligue 1 qui va devenir à la Bulgarie? Tu vas faire quoi? Tu vas te gaver parce que tu vas être champion de France? Mais soyons sérieux 2 minutes. Un peu d'unité dans ce football français qui est complètement à la rue. Qu'on entende des présidents se mobiliser. Il y a un truc qui est absolument formidable. Que ce soit dans l'affaire des fichiers ethniques, pendant 3 jours, je passe des coups de fil, machin, vous allez bouger pour dire comment ça se passe, tous en off, ils te parlent de tout. Mais vous voulez pas public. Oh non, c'est trop sérieux, on va rien dire, machin, rien. Le bal des faux culs permanent. Là, sur tous les dossiers, c'est comme ça. Sur tous les dossiers, en coulisses, ils veulent bien un, mais il n'y en a pas un qui va venir pour s'exprimer.
Donc d'après ton enquête, tout ça c'est avéré, enfin tout ce qui a été décrit
allez, fichage.
Ça se fait dans tous les clubs.
Ah, mais la podcast et... notre émission de mardi, hein.
Bah ouais,
tu vas voir que là
c'est absolument ça a existé, il y a aucun doute, de toute façon les documents sont
ça,
là.
Ça se fait de façon tacite,
ça participe d'un années. Système qui est beaucoup plus vaste. Ça veut pas dire que celui qui a fait caca dans le lavabo parce que d'autres ont fait caca avant, ça l'excuse pas du tout, mais le mieux c'est de nettoyer complètement le lavabo et essayer de voir comment ça a marché pendant des années et de pas s'arrêter sur des points précis.
Daniel.
Donc que notre football français à un moment réagisse et veuille travailler ensemble comme une grande société commerciale, parce que la concurrence elle est absolument
donc
terrible.
Donc voudrais quoi, mea culpa de il y en a un qui prenne la parole et un gros qui dise voilà, on a fait comme ça, on s'est trompé.
Non mais ça c'est
pas sur les fichages là.
Moi je parle plus du business en général. Si Didier Quillot renvoie déjà Tebas à l'Espagne, c'est déjà bien. S'il s'élève quand Rummenigge fait tout pour faire chier le PSG.
Tiens, top,
mais si derrière Jean-Michel Aulas, si bon, écoutons-le bien, je te dirai.
Écoutez Didier Quillot tout à l'heure.
Sur la forme, Javier Tebas, qui est quelqu'un de formidable par ailleurs, qui a développé la Liga à l'international et en Espagne de manière exceptionnelle, je lui ai dit et je lui répète ici sur votre antenne ce soir, occupe-toi de ta Ligue espagnole. Petit 1. Ça c'est sur la forme. S'il te plaît, Javier, occupe-toi de ta Ligue espagnole et continue à très bien bosser pour développer la Liga. Petit 2 sur le fond, les aides d'État. Donc, dont il parle, les fameuses aides d'État. Là, il a parlé de City. Donc, on aurait pu parler du PSG. Il a parlé de City puisque c'est
il a parlé des
aides d'État. Bien. Donc, je vais rappeler à Javier Tebas qu'il y a quelques années, le gouvernement espagnol a fait un moratoire sur les dettes fiscales et sociales des clubs espagnols. Ça s'appelle aussi de l'aide d'État.
Voilà. Hein? Bam.
Il attaque. Il me semble que c'est une très bonne sortie.
Et tu aimerais que tout le monde embraye le pas.
Mais j'aimerais que de la même façon. Monaco, par exemple. Là, ils sont bousculés de toutes parts. Bon, le président est pas là pour... Mais que ça communique un petit peu plus qu'un communiqué de presse avec deux paragraphes pour dire « Non, on n'est pas des méchants. » Mais sortez du bois. Que Jean-Michel Aulas, qui se veut le grand boss du football français... Mais range-toi derrière le PSG, parce que t'as intérêt à ce que le PSG soit fort pour croquer, au lieu d'espérer simplement dire « Ah, il y a distorsion de concurrence, on est trop loin, machin ». Mais c'est en Europe que ça se joue aujourd'hui. C'est pas dans les petits conflits de la Ligue 1, vous avez rien à gagner à ça. Même à Marseille, restez pas silencieux, vous aussi vous avez intérêt à ce que tout le monde aille dans le même sens en France. Même alors, si le PSG est devant avec 20 points, il vaut mieux que ce soit le PSG plutôt que vous n'existiez plus du tout.
Daniel, t'es d'accord Ludo?
Sur le principe, oui.
Il faut être un peu plus offensif.
Bah, je pense, on a tout
intérêt. Il faut se défendre.
On a tout intérêt, au vu de la situation actuelle. C'est vrai qu'on a une Ligue 1 qui est, alors après, on avait vu, il y a quelques années, un rayon de soleil parce que Monaco qui va, jusqu'en quart ou demi de la Ligue des Champions. L'OM qui va en finale. Donc, tu te disais, bon, il y a du mieux, on avance. Et puis tout d'un coup, patatras. Tout s'écroule. Donc, Daniel n'était pas euphorique parce qu'il se disait bon, on va attendre quand même un petit peu. On a du mal à trouver une régularité, mais c'est vrai que notre football français mériterait qu'on on est attaqué de toutes parts. Donc, si on est attaqué de toutes parts et qu'on n'est pas ensemble, forcément, on va pas faire le poids. Donc, je pense que oui, on a intérêt à se défendre en interne.
Il y a les meilleurs joueurs du monde. Il y a quand même un problème de structuration, de société, de modèle économique, de tout. Je veux dire, c'est pas normal d'avoir les joueurs qu'on a. Tiens, champion du monde, et tu seras peut-être vainqueur de l'Euro ou pas. Mais on a quand même une base de joueurs aujourd'hui, un réservoir de joueurs. Tu prends les 50 meilleurs joueurs français, qui a ça? Pas l'Italie, pas l'Espagne.
Ils jouent pas en Ligue 1. Le problème.
Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de les garder. On les forme pourtant, hein. Ils sont pas partis à 14 ans. Il y en a un qui s'appelle Griezmann qui est parti parce qu'il est
parti. La plupart de nos clubs sont développés, se basent le développement économique sur la vente de joueurs.
Je rejoins ce que tu dis. Ça fait très peu de temps qu'il y a du trading en France. Avant, ils se battaient pour les garder.
Oui, mais maintenant,
on a enfin des gens en face de nous qui nous disent, on peut le vendre cher. Mais avant, c'était pas le cas. Et avant, ils voulaient garder les joueurs coûte que coûte.
Le premier point qui a été évoqué, c'est le plan fiscal. On n'a pas la même fiscalité que les autres, c'est plus compliqué.
Ouais. Sauf qu'en
là, on est à part, on fait des équipes qui ont 4 fois moins de budget que toi, donc les impôts, c'est pas ça qui joue là.
Oui, et puis il faut arrêter avec la fiscalité. C'est ce qu'on nous
souhaite. C'est la raison, c'est ce qu'on a mis en avant.
Oui,
ce qu'on a mis souvent.
Oui, mais ça, c'est les fausses excuses de nos dirigeants, ça.
Tu sais ce que c'est la réalité? Et tu as fait l'étranger, tu as joué à l'étranger, tu as fait plusieurs pays. Le travail, la compétence et la passion. Travail, compétence, passion. Ce qu'ont les Espagnols, ce qu'ont les Italiens. Les Portugais, qu'on le veuille ou non, avec leur petit championnat, parce que ça reste un petit championnat. Mais
toi,
mais
quand tu dialogues avec les dirigeants des grands clubs que tu rencontres pour tes différentes affaires, ils te disent quoi, eux, du foot français? Ils te disent, vous, les Français, vous êtes des bidons, enfin, ils te disent quoi?
L'extérieur est très surpris qu'on ait les meilleurs joueurs et qu'on arrive à rien faire avec les clubs. Mmh. Sauf que quand tu vas dans les clubs en Espagne, en Italie, dans tous ces pays structurés, qui travaillent bien, les mecs, ils travaillent 15 heures, 16 heures par jour. Tu les appelles, tu envoies des mails, tu dis WhatsApp, ils sont là. En France, si t'es un Français, quoi. C'est trop cool. Alors, ça travaille pas. Il n'y a pas cette énergie.
Tu veux dire qu'on a un foot de branleur? Parce que t'es en train de dire.
Oui, quand même. Réduire au pays, mais il y a une mentalité qui découle que, on n'est quand même pas les plus grands travailleurs en France. Ben, tu le retrouves aussi dans le football. On n'est pas les plus focus, on n'est pas les plus concentrés, les plus concernés par les choses.
T'as une question.
Moi, j'amène beaucoup de clubs français à l'étranger visiter les autres clubs. Et chaque fois, ils sont là. Comme ils sont organisés.
Exactement comme quand les joueurs y vont.
Pareil.
Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Essayons d'être concrets. Au sein de la Ligue, la plupart des clubs, ensemble, décideraient de... Bah, on parlait de prime d'éthique tout à l'heure. Un peu comme sur le modèle NBA, qu'il y ait genre de charte de comportement pour tous les clubs et pour tous les joueurs qui soient quasi identiques, par exemple. Qu'il y ait ensuite... alors c'est difficile d'aller obliger les joueurs, les mecs à être bons en Coupe d'Europe s'ils ne le sont pas, ou en tout cas à mettre les vraies équipes, mais qu'il y ait une prise de conscience générale que notre niveau peut se dégrader, qu'on ne joue pas à moitié les Coupes d'Europe.
Si demain Kyo il rajoute des primes au club qui font des résultats en Coupe d'Europe, tu vois, interne, ils vont être encouragés à pas mettre l'équipe 2 pour jouer.
Par exemple, voilà, il y a plein d'idées que tu peux trouver.
Tu veux le rassemblement, mais si tu veux le rassemblement, c'est pas assez pour pouvoir lutter contre les mauvais résultats non plus. C'est-à-dire qu'on fait bloc des attaques de l'extérieur, mais ça,
mais ça déjà si tu te sens fort, déjà moi, si tu te sens fort sur la com ou d'autres présidents viennent.
Daniel, le problème il est surtout sur qui est dans les clubs, qui fait quoi et comment le fait. C'est beaucoup dans le club aujourd'hui. Moi qui ai fréquenté des clubs, t'as beaucoup de copinage. C'est le copain du truc, du cousin, du. On fait beaucoup de copinage dans les clubs et on est dans la perte de compétences. Parce qu'aujourd'hui, les clubs qui fonctionnent le mieux. Eh ben, regarde, qui sont les directeurs sportifs, qui sont les mecs au recrutement, qui sont les mecs qui détectent les jeunes, qui sont les mecs à la. Et ça part de là. Quand tu vois notre système, la Fédé, moi qui suis maintenant, j'ai basculé un peu depuis pas mal de temps dans le football amateur. Je vois ce qui s'y passe, je vois comment on aide le football amateur, je vois comment sont formés les éducateurs. Il y a un manque quelque part. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux étoiles parce qu'on a une génération dorée.
Non, parce que t'as une génération qui très vite est partie à l'étranger. N'oublions jamais ça.
Aussi,
Griezmann, aussi. Lucas Hernandez, Varane, Pogba, les piliers.
Quand je dis doré, c'est t'as la chance qu'ils arrivent tous au même moment et qu'ils sont tous en même temps.
Donc enfin, quand ils étaient champions du monde il y a 20 ans, ils étaient partis plus tard. Les mecs, ils étaient partis après les titres.
Oui, mais ils avaient tous appris. Ils avaient.
Chez toi.
Non, mais déjà notre football à cette époque-là se portait beaucoup mieux. Tout simplement parce que les joueurs, tu les gardais plus longtemps parce que c'était avant Bosman. Donc déjà, tu avais un championnat qui était plus compétitif. Mais déjà, à l'époque, la plupart des joueurs avaient dit la haute compétition et la performance, on l'a appris à l'étranger. Beaucoup, Deschamps le premier le disait, De Sailly le disait. Là, pareil, les joueurs, au moins la moitié de l'équipe, sont des mecs qui sont formés au haut niveau, pas formés footballistiquement, qui ont passé le palier à l'étranger. Et ça compte, c'est pas dans nos clubs qui vont le passer, malheureusement.
Quand je vois, pour étayer mon propos, quand je vois l'Atlético Madrid, quand je vois le Borussia Dortmund, quand je vois des clubs comme ça qui pourraient être l'équivalent, il y a quelques temps, en termes de budget d'un club comme l'OL, oui. Et regarde les gens qui travaillent, regarde le recrutement et regarde ce qui s'y passe. On est à des années-lumière du travail qui est fait là-bas.
Prenons le cas de l'Olympique Lyonnais. T'as quand même l'impression, c'est un club qui a des résultats économiques extraordinaires, qui a réussi à créer son propre stade, qui est un des clubs les mieux représentés dans le championnat européen en termes de joueurs formés chez eux. Bon alors, Olas, pas Olas, machin, on peut dire ce que. Enfin, c'est quand même globalement une réussite.
Structurellement, oui. T'es un grand club. Après, ton équipe, elle est pas à la hauteur de l'attente de ta structure
Regarde
le Lyon d'il y a
pas Offenheim, mais tu regardes des joueurs.
Les joueurs que tu prends, ils symbolisent pas le Lyon.
Aujourd'hui, le premier atout de Lyon, ce qu'ils vont te mettre en avant, c'est la valorisation du portefeuille joueur. Moi, j'ai juste envie qu'ils battent Offenheim et le Shakhtar en Ligue des Champions.
Moi,
je veux bien le portefeuille joueur. Très bien, ça, tu sais le faire. On sait que tu sais le faire. On connaît le volet éco, machin. Mais Si dans les années 2000 t'as pu être aussi bon que tu l'as été, peut-être il te manquait quelque chose pour un, mais tu peux pas.
Lyon, ils ont un modèle économique contre très peu de clubs en France, et on leur tape dessus parce que justement ils sont trop dans le modèle économique.
On tape pas sur Lyon.
PSG, qui a pas de modèle économique parce qu'ils dépensent trop d'argent, et on leur tape dessus.
Nous d'ailleurs, on met le bâton.
À un moment donné, quand tu vois l'Atlético et Dortmund, tu es en droit de te poser la question de savoir comment on travaille là-bas et comment on travaille chez nous. On peut se la poser la question.
L'Atlético Madrid, ce que personne sait, c'est que derrière, il y a des fonds d'investissement qui balancent du fric. Ce que disait tout à l'heure
à Lyon, il n'y a pas les.
Il y a 10 ans, quand ils étaient au bord de la faillite, ils ont vendu leur terrain d'entraînement pour 650 millions d'euros à la ville de Madrid. Qui c'est qui a payé? Les contribuables et l'État. Parce que le club était au bord de la faillite il y a 10 ans.
Alors Ludo, attends, c'est, on va accueillir Alexandre
pas ça,
au 32-16.
Dis pas ça à Mediapart, hein, parce que pour eux, c'est le PSG le...
Salut Alexandre.
Le plus grand truand de l'histoire du foot. Hein.
Alexandre, alors, toi, t'es supporter de Porto, je vois.
Bah, en fait, moi, je suis pas réellement supporter de Porto. J'aime bien le football portugais, j'aime bien le football français et européen en général.
Tu as le droit.
Et je suis plus une personne qui supporte les joueurs que les clubs. Parce que...
On n'est pas loin du footix. Attention.
Non, pas du tout. C'est facile de dire ça. Je trouve que le footix...
Je plaisante.
Ça va faire presque une vingtaine d'années que je suis de foot. Et ce qui m'énerve en France, c'est qu'on se cache trop derrière le budget des clubs. Et ça m'énerve vraiment parce que quand je vois au Portugal ce qui se passe, que ce soit Porto, Benfica,
Braga, l'année où ils vont très loin en Coupe d'Europe, quand tu vois le budget de Braga.
On n'a même pas besoin d'aller jusqu'à Braga, même Sporting. Quand je vois en France Lyon et Marseille, mais Lyon et Marseille, c'est un budget qui est beaucoup plus important que Porto et Benfica. Et ça, je comprends pas pourquoi à chaque fois en Europe, on s'est enflammé l'année dernière parce que Marseille était en finale d'Europa League. C'est bien, mais faut regarder qui ont joué en face. Et normalement, Marseille, tous les ans, devrait aller en quart de finale minimum d'Europa League. Et on a du mal à passer les poules en Ligue des Champions. Je parle pas du PSG parce que le PSG c'est plus pareil, c'est comme vous parliez tout à l'heure, ça fait partie maintenant du top 10, il pourrait être dans une ligne fermée, c'est pas tout à fait pareil.
Non mais nous c'est alors pareil, on parle souvent de ça dans l'after, mais c'est vrai que les budgets les clubs ukrainiens qui vont loin en Coupe d'Europe, ils ont quand même pas le budget des clubs français, elle est bien d'accord.
Mais moi j'ai toujours dit, moi si tu te fais battre par une équipe, t'es Lyon, tu perds contre le Real, le Barça, Manchester, OK, tu t'es battu, t'as fait ce qu'il fallait pour tenter l'exploit, tu perds, OK. Mais pas que tu bats pas Hoffenheim, le Shakhtar, que tu perds contre Copenhague et toutes les équipes ukrainiennes, mais même pas en rêve, t'arrives à les accrocher. Après, maintenant, c'est insupportable.
Ce qui est gênant, j'en parlais dans Team League tout à l'heure, c'est pour moi, c'est la philosophie des clubs par rapport à la Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'on la joue pas. Enfin, on se moque du monde. Nos clubs français se moquent du monde.
Après, moi qui ai joué, j'ai plus de 50 matchs d'Europa League.
Dis-moi, t'étais pas sur la pelouse quand Giggs, il fait le coup du coup franc?
Bien sûr, j'étais sur la pelouse. J'endors encore pas les nuits, ce coup franc-là.
Et que vous êtes allé pleurer chez l'arbitre alors qu'il y avait totalement raison.
Non, mais là aussi, on a été remis à notre place, quelque chose sévère. C'est-à-dire, on a dit non, nous on sort, terminé, on pose une réquisition. T'as les mecs de l'UEFA qui sont arrivés au bord du terrain, ils ont dit, oh, les petits nordistes, là, si vous avez envie de revenir en Champions League, vous avez intérêt à retourner sur le terrain parce que sinon, vous revenez plus jamais. Ouais, je peux te dire qu'on est reparti ni une ni deux et on s'est fait enfumer comme il fallait. Et en plus, tu le vois, l'arbitre, il lui demande, vas-y, je peux tirer, vas-y. Enfin, ça a été dur à avaler, hein. Mais quand t'es un petit, tu la fermes et puis tu reviens l'année d'après, t'essayes de grandir et jusqu'à ce que... Mais ça a été dur à voler, ouais.
Non, parce que là, ce qui se passe là sur il y a plein de débats actuellement sur le foot français est en régression. Moi, pour ce qui symbolise ça, c'est la Coupe d'Europe, on est bien d'accord. Bon,
c'est un indicateur en tout cas.
Le calibrage,
il est pas en régression, il est régulier par rapport à son histoire.
Sauf que la Coupe d'Europe joue là, quoi, et arrêtez de nous prendre pour des blaireaux. On tient ce discours depuis 15 ans.
Moi, je pense qu'il a joué que notre niveau est encore pire qu'avant.
Alors, dans les clubs, en tout cas.
Le football espagnol progresse, le football portugais est à peu près stable.
Le football italien progresse.
A vachement repris avec l'argent des droits télé et les recrutements qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, le problème enfin, c'est la disparité. Est-ce que le PSG devient de plus en plus grand, les autres deviennent de plus en plus petits et mauvais. Et c'est ça le vrai problème.
Alors que tout le monde devait profiter des... Alors les droits télé vont être effectifs l'année
mauvais
prochaine.
Mauvais sur la chaîne européenne.
Mais
oui, mais même je veux dire au niveau national.
Ils sont
national,
quand même en augmentation.
Monaco avant, on prenait pas 4 à la maison contre Paris. Marseille cette année contre Paris, c'est compliqué. L'année dernière, le match de Paris à Marseille, c'était passé différemment. Marseille a failli gagner. C'était pas l'égalisation à la dernière minute, machin. Tu as vu le match cette année, c'était pas le même match. le match de PSG à Monaco cette année, c'est encore pas le même, pareil que l'année dernière il y a deux ans. Pour moi, il y a une disparité de plus en plus profonde et c'est inquiétant.
Alexandre, j'ai des petits cadeaux là. Je te laisse le choix entre deux places pour aller voir la pièce de théâtre de Franck Leboeuf. Boeing. Et on a ça nous.
Attends,
ou alors j'ai le bouquin de Villas, toi qui aimes le foot portugais, mais il parle pas tout portugais dedans,
non,
c'est enquête sur le racisme dans le football. Donc Alexandre, je te laisse choisir.
Et Daniel, il aurait pas plutôt un bon bouquin à me filer?
Ouh, ça c'est un compliment ça.
Tu veux quoi?
Il vaut pas du bouquin de Villas, Alexandre, t'as vu?
Prends le bouquin de Nico, il est tout frais.
Non, parce que j'ai lu celui où tu dégommais pas mal de personnes et j'ai trouvé bien, j'ai dégommé en une après-midi. Et j'ai pas acheté
Raka, Raka, il fout le Football Club.
Mais il est vieux celui-là, j'en ai plus, il a 5 ans celui-là, j'ai plus celui-là.
Ah bah sur eBay, il y en a qui traînent, t'inquiète, pour 2,50€ tu vas en trouver.
Je te rappelle qu'il t'a traité de footix hein, au début. Hein.
Bon Alexandre, je t'envoie le bouquin de Villas, t'as pas le choix,
Ludo,
c'est cadeau.
Ludo, super
pied
gauche.
Ah, merci.
Salut Alex, à très bientôt.
Salut Alex.
Dans
salut.
Quelques instants, les de retour, l'équipe de France au programme bien sûr, l'actu du jour. Demain il y a Pays-Bas. Bah demain il y a Pays-Bas Et puis, bien sûr, Toulouse au programme, l'équipe PIP, l'équipe type de l'histoire de Toulouse. Préparez vos équipes. Il y en a pas mal déjà qui sont
préparées par Jeannot.
Jeannot Rességuié, bien sûr, s'est penché sur la question. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
On est là avec Ludovic Obraniak, avec Daniel Riolo, avec Yvan Lemay, agent qui est avec nous ce soir. Avant de parler de l'équipe de France, Thibaut nous appelle au 32-16, il veut réagir à notre débat d'il y a quelques instants sur le modèle français. Thibaut, bonsoir.
Oui, bonsoir messieurs.
Salut Thibaut, on t'écoute.
En fait, mon opinion c'est que en France, quand on parle des championnats étrangers, on parle du football anglais qui est enlevé, dynamique, où il y a de l'intensité. On parle du championnat espagnol, où il y a de la technique, de la vivacité. On parle du championnat allemand, où... En fait, tous les championnats ont un peu une identité de jeu assez propre. Et quand on parle du championnat français, on sait pas trop. On sait pas trop qu'est-ce que le championnat français, qu'est-ce que le football français. Bon, quand les étrangers arrivent, ils disent, bon, c'est physique, c'est dur, les équipes sont agressives. Mais finalement, on n'a pas vraiment d'identité de jeu propre vraiment marquée. Il n'y a pas un label Made in Ligue 1 où il n'y a pas quelque chose qui fait que quand on parle du championnat de France, ça attire. Voilà, quand on parle du championnat anglais, ah ouais, franchement, tu vas en Angleterre, c'est intense et tout. On dit, ah ouais, je vais regarder un match anglais. Quand on parle du championnat de France, on se dit, tu vas regarder un championnat de France. Ouais, mais c'est quoi le football français? Je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça joue. Il y a pas d'identité.
Ah, ça joue bloc bas et plutôt physique.
Voilà,
hein, c'est simple.
Avec une identité de jeu. Et ça, c'est un problème parce que finalement, on se rend compte qu'un entraîneur comme Favre, qui est arrivé à Nice, qui a vraiment imposé un style à une équipe, à cette équipe. Favre, il va à Dortmund, alors qu'en réalité, au lieu de signer à Nice, Favre, il aurait dû signer dans un club comme Marseille, dans un club comme Lyon. C'est là qu'est sa place, en fait, à Lucien Favre, dans un club qui a vraiment le potentiel de jouer une Ligue des Champions, d'avoir un potentiel.
Ça, c'est sûr qu'à Marseille, il aurait fait l'affaire, hein, sans problème.
Jardim, aujourd'hui, Jardim qui n'est plus à Monaco, j'espère quand même, que Marseille, que je sais pas quel club, mais un club qui en tout cas a envie de grandir, j'espère qu'un de nos clubs va rappeler cet entraîneur en lui proposant un projet intéressant. Parce qu'il faut pas, on parle de la fuite des talents en parlant de la fuite des joueurs, des joueurs qui vont à l'étranger, mais on se rend compte qu'il y a une fuite même des entraîneurs. C'est-à-dire que le niveau de nos
Thibaut, ça me donne ça me provoque une autre réflexion sur tout ce que tu dis qui est intéressant. C'est qu'on râle après, c'est vrai qu'on dégage pas l'image à l'étranger là dont on parlait tout à l'heure et qui on se défend maintenant, mais on dégage pas un truc hyper sexy et après on va pleurer qu'on n'arrive pas à vendre les droits internationaux. Mais c'est vrai, qui va te les acheter, les droits internationaux?
Excuse-moi, les droits internationaux, ils ont été vendus une bouchée de pain pour un contrat longue durée
à Bein
jusqu'en 2024.
Bon, quand même,
et celui
c'est
qui
très
était
loin du compte.
Et celui qui était
opérationnel,
et celui qui dans cette vente là a joué un grand rôle et a donc fait perdre beaucoup d'argent au football français, se plaint souvent de pas en avoir assez. C'est le président de l'Olympique Lyonnais. Donc, qui de ce côté-là, c'est bien planté. Entre ça, plus sa vraie fausse participation aux discussions Champions League avec le cartel européen, au niveau du foot français, Voilà, il s'occupe de Lyon, quoi.
Thibaut, bravo, en tout cas, je t'envoie les deux places pour le spectacle de Franck Leboeuf, hein. C'est cadeau, faut aller le voir, il est presque aussi bon que sur le terrain.
Mais on en revient. 80
millions sur 10 ans, c'est une bouchée de pain, quand même.
Qu'est-ce qui fait les clubs, la matière première des clubs, ça reste les joueurs. Comment tu composes ton équipe? Est-ce que l'entraîneur en Angleterre, il y a aussi une identification parce que c'est souvent le manager, l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. On vire rarement, alors ça se fait un peu plus maintenant, mais le manager en Angleterre, il était là pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il avait le temps de construire des affinités au sein de son équipe. Je décide de jouer avec deux fausses pattes, Wenger, Ljungberg, Pires d'un côté. Il me faut des latéraux qui dédouent pour les faire rentrer. Enfin, c'est toute cette composition qui fait que c'est le choix des hommes, au final, qui crée un club.
Et là-dessus, on est en retard.
Mais je pense que les gens qui prennent les décisions en haut lieu se trompent, connaissent peut-être pas assez le football ou se trompent sur leur vision du football quant au comment créer une équipe par rapport à l'ADN de notre football.
Messieurs, on va passer aux infos du jour. Il y en a plein. Pour conclure sur les Football Leaks, l'enquête interne du PSG ce soir, c'est le club qui communique. Hein. L'enquête interne qui avait été commanditée par le club démontre, c'est le club qui le dit, qu'il n'y a pas eu de cas avérés de discrimination. Alors une enquête qui s'est fondée sur l'analyse d'échanges d'emails, donc entre les différentes cellules là, de recrutement et leurs membres, et sur une série d'entretiens menés avec les salariés du club depuis quelques jours, salariés en charge du recrutement et du centre de formation. Donc voilà ce que dit le club ce soir.
De toute façon, à moins
pas de cas avérés de discrimination.
À moins d'être malvoyant, je veux dire, allez imaginer un truc pareil. Enfin, on a essayé, on en a parlé, qu'on prenne qui pourra.
L'équipe de France est à Rotterdam ce soir. C'est là que l'équipe de France a gagné l'Euro 2000 d'ailleurs. C'était dans ce stade, la finale de l'Euro 2000 à Rotterdam. Demain, j'ai le 11 de départ. Loris dans les buts. Kimpembe Varane en défense centrale. Digne titulaire avec Pavard de l'autre côté.
Qui ça?
Digne, Lucas Digne. Titulaire.
Qui fait une bonne saison à Everton.
Digne, Pavard.
Pavard qui est...
mais qui joue à défense centrale.
Coussa, il est plus au Coussa alors.
Ouais, mais attends, Pavard, tout le monde dit Coussa, mais Pavard, personne ne voit ses matchs. Hein. Déjà, ils ne sont pas diffusés en France. Stuttgart, tu ne les vois jamais.
C'est vrai qu'on ne les voit pas, mais
tous les mecs te disent « Ah, oh, Pavard, il est nul, personne ne les voit,
les matchs !» Gilbert, si tu lis compte rendu d'un match, Anthony, il est mauvais dans une équipe qui est dernière du championnat, déjà, ça te donne quand même 2-3 indices, quoi.
Non, mais il peut être le meilleur de son équipe qui est derrière le Bundesliga. Non,
quand tu joues défenseur central gauche en étant droitier dans une défense à 3 et que Deschamps le prend pour jouer latéral droit 4 derrière, c'est pas le même football non plus, c'est pas la même histoire.
On est bien d'accord. On aura demain Kanté, Zonzi devant la défense, donc 4-2-3-1 là, et puis ensuite la ligne de 3, Mbappé, Griezmann, Matuidi et Giroud en pointe.
Normal quoi.
Voilà
les milieux ultra renforcés
de demain.
Giroud, parce que j'ai pas suivi, a toujours pas prolongé, a rien fait avec Chelsea, là, il y aura 6 mois de contrat.
Ouais, je crois pas, non.
Comme tout le monde parle toujours pour l'attaquant, pour Marseille, si Marseille va pas dessus, là, avec 6 mois de contrat, avec Chelsea, c'est quand même le meilleur moment, c'est Morata qui joue, il joue pas.
Je pense que si t'as pu mettre les sommes qu'on a évoquées pour Balotelli, tu peux les mettre pour Giroud.
Me semble-t-il.
Combien il proposait à Balotelli? L'OM?
500 000 de salaire?
De salaire? Ah, c'est monté jusqu'à 700.
700 000
Brut.
Il faut dire que Rudy Garcia le voulait vraiment.
Ludo.
700 000
Eh ben, dis donc. Bravo.
On a une petite idée de l'équipe des Pays-Bas. Je peux vous dire que
heureusement
Memphis Depay
n'ont pas cédé à l'entraîneur à Marseille. Hein.
Tu disais, Daniel, pardon?
Non, je dis heureusement que les dirigeants n'ont pas cédé à l'entraîneur.
C'est dingue parce que moi, j'ai pas senti dans sa communication. Bah, Rudy, je l'ai côtoyé aussi, toi aussi. Enfin... Alors toi, t'as le côté Rudy plus dans le privé. Moi, je l'ai connu aussi un peu, mais en tant que plus l'entraîneur. Mais dans sa communication, j'ai quand même pas senti qu'il le voulait plus que ça, Mitroglou. Il s'est appuyé... Balotelli, pardon. Oh, putain. Et
Mitroglou, il l'avait pas voulu non plus.
Mitroglou, c'est une autre histoire à mon avis.
Mais tu crois qu'il le il l'a vraiment voulu, Balotelli? C'était vraiment son choix.
Balotelli, il avait pas de marché cet été, il y a personne qui en voulait. Raiola s'est servi de la proposition de Marseille, et je reste convaincu qu'à Marseille, pour être Marseillais, on a besoin d'avoir un peu un attaquant un peu différent, déglingué, et tu peux pas dire qu'il a pas la qualité. Il fait 1m89, il va à 2000, il est capable de dribbler, joueur 3x3. Faut qu'il ait envie de courir, qu'il ait envie de jouer. Est-ce que t'es capable de lui donner ça? Rudy est capable de donner ça, je pense, au joueur. Tu l'as fait, il s'est tiré le maximum. Je pense qu'il pensait lui qu'il était capable de, d'arriver à faire le max avec Rudy.
Il a la vraie question.
Il a parmi les dirigeants qui n'ont pas l'expérience, parce que ce sont pas des dirigeants malheureusement qui ont fait 20 mercato dans leur vie. Avant, ils géraient Internet. Internet, c'est pas gérer des transferts, encore une fois. Ben forcément, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué.
Il a pas eu la balle que ça aurait été une bonne idée que Balotelli vienne à l'OM. Tu penses que son destin aurait pu être modifié?
Je pense qu'à l'OM, on n'a pas eu un attaquant d'envergure avec une image au-delà de la qualité de joueur depuis très longtemps. On a eu des bons joueurs sans image ou des mecs avec de l'image, mais pas le ballon.
Donc tu penses que Balotelli
il avait les deux réunis.
N'aurait pas été gros, se serait bougé le cul.
Je sais pas. Je pense qu'il aurait fait le maximum. Je pense que quand il est dans ce stade, ça donne envie de courir.
Oui,
même
oui.
Si tu es sur qu'une jambe, tu vas courir.
Possible. Alors,
après, il serait quand même arrivé avec 6 kilos de trop. C'était pas sérieux ce qu'il a fait non plus d'arriver à Nice avec du poids. Mais je pense qu'à Marseille, il aurait pu y arriver. Après, c'était le serpent de mer. Ce qui m'a énervé, moi, personnellement, c'est que tu peux pas, si tu es un dirigeant responsable, rester 2 mois focus sur un joueur. Il y a aucun
sentiment
qu'il fait. Au bout de 3 semaines, 1 mois que tu arrives pas, tu passes à autre chose.
Sans avoir un plan B.
Sans avoir un plan B. Et à la fin, on te dit, non, mais en fait, on cherchait pas d'attaquant, et puis on prend un 6,
mais
qui, lui, court sur une jambe.
Connaissant
Rudy. Pourquoi il court sur une jambe?
Bah, il a eu 2 blessures au jeu, quand même, trop Schmidtman, c'est de notoriété publique. Genre, en Italie, c'était tous morts de rire. Et Monchi, pour qu'il t'envoie le joueur en 3 jours, c'est qu'il y a un problème. Monchi, les joueurs, ils les gardent.
Mais l'année dernière, il a été bon, quand même.
Ouais, mais si tu regardes bien, sur les gros matchs, il est bon, il court. Sur les matchs moins importants, il a mal.
Et connaissant le personnage, l'association Garcia Balotelli, je suis peut-être au début, ça aurait on aurait entretenu, il aurait réussi à entretenir il est trop rude, il est trop exigeant envers l'autre, il aurait pas suivi
mais,
au niveau
il sait prendre, mais l'autre il est
quand même il faut se le farcir quand
même. Dis-moi, il y a un mystère quand même, Yvan, t'es Marseillais, mais normalement t'es Rennais ou Guingampé avec un nom pareil.
Ouais, c'est vrai qu'Yvan Lemay,
à Marseille, c'est chelou cette histoire.
Mon père est breton et ma mère est napolitaine, donc c'est un grand croisement.
Très bien. Ah oui, donc à mi-chemin.
J'ai plus passé de temps dans le sud de l'Italie que dans le nord de la Bretagne.
Très bien.
Et surtout Marseille de toujours. Quoi.
Bon, notre producteur qui est de Rennes nous dit c'est bien dommage. Bon, c'est comme ça. Dans quelques instants, Toulouse, là aussi, c'est à peu près à mi-chemin entre Naples et la Bretagne. L'équipe type de Toulouse, de son histoire, et l'équipe pipe. Même le club nous a envoyé l'équipe, alors on va voir si on adhère ou pas. C'est tout de suite dans l'after, c'est notre grande opération. Équipe type, équipe pipe qui continue, à tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, nous sommes là, Ludovic Obraniak, Daniel Riolo et Yvan Lemay, toujours avec nous, Yvan, agent dans la place. Alors, Toulouse, attention, on accueille Nabil au 32-16, qui est un supporter historique de Toulouse. Nabil, bonsoir.
Bonsoir toute l'équipe.
Salut Nabil.
Nabil, on va déjà, parce que le club, et c'est la première fois dans notre opération équipe type que le club se manifeste, le club de Toulouse, c'est toujours performant sur les réseaux sociaux.
Hier, on a eu un joueur qui s'est manifesté.
Oui, Tamézé qui est
Tamézé qui voulait pas être dans l'équipe PIP.
Ouais, à Nice, bon, il y a pas été d'ailleurs.
Si, il a envoyé un message, il a dit,
sur Twitter, dans l'équipe PIP,
faites tout pour que je sois pas dans l'équipe PIP.
C'est bon. Pour une fois qu'il y a quelque chose qui se passe.
Ouais. Alors, à Toulouse, oui, t'as raison Nabila. Ouais. On va découvrir l'équipe type des 80 ans. Alors, au moment des 80 ans du club, il y a eu une grande consultation des supporters pour faire un peu le même jeu que ce qu'on fait nous. C'est-à-dire l'équipe, la meilleure équipe de l'histoire du TFC. Donc, on va la découvrir sur RMC Sport News. Je vais vous la donner, évidemment. Puis, on va pouvoir débattre, voir si les supporters toulousains sont en phase, ou pas. Envoyez-moi l'équipe.
Jérôme. Non, elle arrive pas, là, l'équipe.
Revaux dans les buts. Bon, c'est peut-être enlevé, Bergerot. Je sais pas, Nabil, ce que t'en penses, Bergerot.
Non,
pas Bergerot.
Mais c'est quoi cette équipe avec Marcico arrière gauche?
Hein? Non, Marcico arrière gauche, il y a un problème, là.
C'est quoi cette équipe?
Marcico.
C'est un 3-4-3, en fait, cette équipe. C'est un 3-4-3. Voilà. Attends, Nabil.
Avec Marcico à cet endroit-là?
Ben, écoute,
mais Marcico, il fallait qu'il soit au milieu avec son bide.
Ils ont voulu mettre plein de joueurs offensifs. Alors, attends.
Ah, c'est n'importe quoi.
Tarantini, Abdenour, Arribagé, les trois défenseurs. Voilà. Ensuite, t'as Sissoko et Despérou devant la défense.
Non, on comprend rien.
Deux mecs de côté, Marcico et Emana. Et devant, Elmander, Gignac, Ben Yedder.
Mais ça, cette équipe, elle joue jamais ensemble.
C'est le 11 de légende, fait par le club avec les supporters.
C'est un 11 Panini. Ouais.
Voilà, mais même pas Panini, ça joue pas, c'est ridicule.
En fait, c'est le 11 qu'ils ont pu avoir ce jour-là, en fait.
Ouais, voilà. Non, nous, on veut des équipes qui jouent, qui peuvent jouer.
Nabil, on t'écoute, tu mets quoi, toi?
Alors, direct, on peut pas se passer d'un gardien qui est passé à Toulouse et qui reste l'un des meilleurs gardiens au monde. c'est bien Fabien Barthez. Il est passé à Toulouse.
Ça, c'est vrai.
Oui, mais après, il a fait quoi à Toulouse ? Il a démarré ?
Et il a démarré, oui, il a fait une saison.
Bah, une saison, ça suffit
pas. C'est pas assez pour être dans l'équipe type. C'est pas...
Francescoli serait dans l'équipe type de Marseille, il a fait une saison à Marseille.
Et voilà.
Attends. Mais je suis pas sûr qu'il y soit.
Il a fait une saison, on peut pas passer à côté de ce gardien-là, Fabien Barthez.
Bon, c'est ton choix, Nabil, bon. Nous le respectons. Bon.
Ouais, mais
ta
bon.
Défense.
Bon.
Alors, ma défense, elle se compose avec, bien sûr, Alberto Tarantini. On peut pas passer à côté, champion du monde en 78. On peut pas passer à côté. Et à côté de lui, moi, je mettais Étienne Capoue.
Ah, tiens.
Étienne Capoue. Étienne Capoue, okay. C'est un joueur qui a marqué le club, qui a été bon. Et voilà, on peut pas passer à côté de ce joueur-là, pour moi.
Hein. Parfait.
Alors, sur les côtés,
vas-y.
Sur les côtés, je mettais Serge Aurier, parce qu'on a eu quand même Serge Aurier, qui a passé 2-3 ans au club.
Il faisait pas de périscope à l'époque, en plus.
C'était bien passé.
Ouais, et en plus, à cette époque-là, ouais.
Ah, elle est en train de briller, ton équipe, hein.
Il a été très bon, hein, cette période-là, il a été super. Dominique Arrivagé, parce que bon, c'est l'emblème un peu Dominique Arrivagé, si il y est, c'est obligé.
Ok, on prend.
Mais tu le mets où Arrivagé, j'ai pas compris là.
Je le mets
latéral parce que je
sais pas. Tu le mets latéral Arrivagé, n'importe quoi.
Dans l'axe Dominique quand même.
Je peux pas faire autrement.
Bon, ah là, mais non, mais il faut faire des choix.
Mais moi c'est mon choix, je l'aurais mis sur un côté, j'aurais fait démarrer comme ça.
Au milieu, bon, vas-y Nabil, on t'écoute.
À milieu, j'ai deux trucs, tu vois. J'ai Moussa Sissoko, on ne peut pas passer à côté.
Mm-hmm.
En 6, milieu défensif, il n'y a pas eu mieux. Il n'y a pas eu mieux à ce poste-là.
Ok, très bien.
Sur les côtés, Gérald de Passy.
Ah, Gérald de Passy, c'est ça, j'avais oublié.
J'avais pas oublié, moi.
Achille Emana.
D'accord.
Il n'y a pas mieux, ok. En 10, Marsico.
Très bien.
Marsico, meneur de jeu.
C'est mieux que dans le couloir
gauche. Il est obligé d'être là. Et devant, pour moi, j'ai trois joueurs. Je mettrai André-Pierre Gignac dans l'axe, Wissam Ben Yedder sur un côté, et Yannick Stopira.
Ah oui,
tout le monde l'a oublié, mais Yannick Stopira.
Stopira, je le mets en pointe à la place de Gignac, moi.
Ah.
Tu vas faire un choix, tu vas pas jouer avec un 9 et excentré, hein.
Bah écoute, moi ça serait mon équipe de rêve, voilà.
Et il faut démonter là-dedans, Nabil.
Après je vais te parler d'un joueur, je sais pas si tu t'en rappelles, Daniel, ok, mais c'est un joueur vraiment, moi je suis allé le voir hein, jouer, il a fait qu'une saison à Toulouse, hein, mais franchement ça a été un joueur formidable pour moi, c'est Victor Bonilla. Victor Bonilla, c'est un attaquant, il est venu de nulle part ce gars. Et c'est un gars, en fait, il m'a fait rêver toute une saison. Bon, après, il est arrivé dans une période où le club s'est retrouvé en national, bon, pour des extras sportifs et tout un tas d'histoires.
Ah, voilà. J'avais oublié après, le genre des pitchouns, là.
Bah, oui, bien sûr.
Eh oui,
sûr,
avec Revaux, à l'époque, qui était resté. Bah, attends, Nabil, on va passer aux équipes pipes, maintenant, parce que...
Tiens, et tu donnes pas l'équipe de Jeannot?
Attends, on va voir l'équipe de Jeannot, là.
L'équipe de Jeannot, quand même.
On va voir si elle correspond à celle de Nabil et à celle du club. Et ensuite, on passera à l'équipe pipe. Alors, Jeannot, qu'est-ce qu'il nous a mis? Pour l'instant, il n'y a pas de nom sur l'équipe de Jeannot. Donc, ça arrive. C'était pas
l'équipe type de Jeannot. Moi, je suis sûr qu'il y a pas mal un hommage à Evidamenti, qui avait pris au marquage Maradona.
Il a mis Bergerot dans les buts, Tarantini et Arribagé dans l'axe, Ti et Lestage sur les côtés. Ensuite, Marsico, lui aussi l'a mis sur un côté, Marsico. Marsico,
ouais, mais parce qu'il a fait un 4-4-2, mais en fait Marsico est derrière les attaquants,
il
joue à 3.
Derrière, dis donc.
Ah ouais.
Ah mais moi, pas avec, pourquoi il met pas Stopira,
moi, je comprends
pas.
Moi je vais te dire, Elmander, rien que pour ses déclarations sur le cassoulet, il pouvait pas y être. C'est même pas ce qu'il avait dit sur le cassoulet.
Si, bien sûr.
Il avait dit on dirait de la bouffe pour chien. Bon, franchement, tu dis un truc pareil, comment tu peux être dans l'équipe type de Toulouse?
Moi, s'il veut jouer avec deux attaquants.
Il n'a pas totalement tort, c'est, faut le noter.
S'il veut jouer avec deux attaquants, soit Stopira Gignac, soit Stopira Elmander. Mais Stopira, il doit y être.
C'est plus équilibré que la première équipe qu'on a vue.
Oui, au moins l'équipe de Jeannot ressemble à quelque chose. Oui.
Alors maintenant, les équipes pipes. Je vais vous livrer l'équipe pipe de nos internautes qui nous ont sorti Ahamada dans les buts, le pauvre. C'était pas si vieux, mais voilà. Zebina, qui a passé un passage à Toulouse qui apparemment a pas tellement marqué les supporters.
Non, c'est sûr.
Il était quand même passé par la Juve et tout le reste. Zebina. Ils nous ont mis quoi encore? Ils m'ont mis Claire. Alors non, mais là il y a une erreur. Je crois que c'est François Clerc, c'est sur un côté, et Zébina dans l'axe. Johnson, Ratinho, je ne sais pas si vous venez de celui-là.
Non. Ratinho. Là il y a plein de mecs, je me souviens pas du tout d'eux.
Furman au milieu.
Dominique Furman.
Ouais, Dominique Furman. Et ensuite quelques joueurs offensifs.
Après il y a le mythique Kazim Kazim.
Le mythique Kazim Kazim. On avait même créé un jingle Kazim Kazim dans l'after.
Le buffle qu'ils avaient là, le Norvégien. Comment
il s'appelait? Pardon, le micro, Ludo. Un Norvégien dans l'axe, tu disais?
Le buffle, là, qu'ils avaient sur le côté, là, le tractopelle, là, qui enfonçait tout, là. Norvégien ou danois, comment il s'appelait?
C'est pas Elmander dont je te parlais
tout à l'heure. Non, un autre.
Ah, Forte?
Non.
En tout cas, écoute ce jingle Kazim Kazim. Parce que Kazim Kazim nous expliquait à l'époque qu'il avait des besoins sexuels assez importants pour être bien dans un match, donc on avait créé ça dans l'affaire.
On se souvient qu'il avait expliqué ça.
Bonjour madame, je suis le plombier et je viens pour réparer la fuite.
Allez-y, rentrez. Je suis pas dans le genre parouche, moi.
C'est notre jingle Kazim Kazim, on s'amuse dans l'after, c'était bien.
Bratton, Daniel Bratton.
Ah oui,
Daniel Bratton.
Norvégien, Bratton, voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a des joueurs vraiment bidons, Nabil, qu'on n'a pas cités, que tu as envie de citer?
Ouais, il y en a un, il n'y a pas longtemps, là. Je sais plus son nom, là, il jouait devant, là. Je crois que c'était... je sais pas de quelle origine il était là.
Je t'en souviens pas, Nabil, c'est pas toi.
Non, mais il était scandaleux. Il est arrivé une saison.
On saura pas qui c'est.
Ils ont fait.
Vous en avez eu à Toulouse aussi des joueurs virtuels.
Hein. Ah ouais, on en a eu quelques-uns, ouais. Après, bon, voilà, hein, ça reste quand même un club qui a marqué les années 80 quand même. Au plus fort de la domination.
Ouais, il a marqué, parce que ce match contre Naples est resté dans les mémoires, quoi.
C'est celui qui a vraiment avec un milieu de terrain Pascal Despérou par exemple.
Bah ouais, Despérou, je l'ai pas vu dans beaucoup d'équipes. Despérou, ouais. Il y a Jean-Philippe Durand aussi à ce moment-là à Toulouse.
Exact.
Et personne n'a cité Vagis Kidiatouline, qui était à l'époque le premier joueur de l'ex-URSS à venir en France. Vous ne souvenez pas de celui-là, un milieu de terrain.
Ça va sûrement trop loin pour moi là.
C'était quand même l'époque où en Coupe d'Europe, puisqu'on en parlait tout à l'heure, les clubs français pouvaient faire des choses comme éliminer Naples
avec Jacques Santini sur le banc.
Jouer le Spartak au tour d'après, match aller donc à Toulouse. C'était Dassaïev, le gardien du Spartak. Toulouse gagne 3-1 avec un triplé de Gérald Passy qui avait été extraordinaire ce soir-là. Je me rappelle tout le temps, j'étais petit, le lendemain, Yves Mourouzi ouvre le journal en disant A Star is Born. 15 jours après, ils ont pris 5-1 à Moscou.
Concluons.
C'était la fête après le match aller. Hein.
T'es venu nous raconter plein d'anecdotes.
Et il menait 1-0 parce que Durand avait marqué.
Et tu t'occupes aussi d'une association dont tu voulais nous dire un mot en conclusion de cet after.
On a fait une association avec Keops, qui est le DJ du groupe IAM, fondateur du groupe IAM, qui est un passionné de football depuis 30 ans et qui est un ami à moi depuis 25 ans et qui avait envie de rentrer dans le monde du foot. Et aujourd'hui, il vient travailler avec nous. Donc c'est un petit peu l'association du monde du rap avec le monde du foot avec celui du rap.
Ah bah ça c'est l'avenir.
C'est comme beaucoup, Google,
et ça je l'ai ressenti, tu sais, je vais souvent à Los Angeles pour les Sandrini, tu vas dans le vestiaire, tu as les playlists des Américains, tu as Snoop Doggy Dogg qui vient au match, il y a une collusion entre les genres, ce qui est incroyable. Moi, Alessandrini a fait des concerts avec les McDayam. Les McDayam sont copains avec beaucoup de joueurs. Donc voilà, est venue cette idée, ce concept. Et aujourd'hui, on a lancé officiellement depuis quelques jours, effectivement, l'association.
C'est quoi, l'association?
C'est une société. L'association, c'est une société.
C'est un business social.
Yvan, il a vu que Bouba se lançait dans le foot, il s'est dit attends, moi aussi, il faut un business.
Sauf que nous, on travaille, ça fait un petit moment, on a fait des transferts à Juventus, à Real, comme on l'a dit.
Vous n'avez pas prévu de baston dans les aéroports, Yvan? Tout va bien.
On évite.
Merci en tout cas d'être venu, Ludo.
Merci Yvan d'être venu
demain soir pour analyser avec Daniel d'ailleurs le match.
Je suis là demain avec toi. Quel kiff. Donc, tu vas changer de pote là.
Allez, bonne nuit.
Jonathan, je propose.
Ça me fait du bien un peu.
RMC Football Show, l'After Foot.